France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Écrire, ce n'est pas un devoir. Mais peut-on espérer, pour bientôt, une nouvelle œuvre de fiction ? Et quand ? Une journée de travail de l'écrivain qui nous intéresse. Un écrivain qui dit de lui... « Je ne suis pas précoce. Si j'avais été précoce, je serais déjà mort. » Cet écrivain qui, bientôt, quand donc, verra son œuvre accueillie dans la Pléiade et qui dit de cette collection fameuse « C'est un spectacle de regarder la Pléiade sur un rayonnage, mais la lecture, c'est autre chose. » Cet écrivain qui lance à celui qui l'interviewe « Arrêtez avec vous, pourquoi ? Je n'ai pas toujours d'explication. » Cet écrivain était l'invité de Christophe Onodibio le 6 juin 2015 sur France Culture.
Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, une émission très spéciale aujourd'hui puisque nous avons eu la chance de rencontrer l'un des derniers grands monstres de la littérature française, quelqu'un qui, à travers ses livres, a rythmé littérairement la jeunesse de beaucoup de lecteurs et aussi peut-être leur arrivée dans le monde adulte, quelqu'un qui a sculpté l'imaginaire, quelqu'un qui a peuplé cet imaginaire de mythes pleins d'ogres, de jumeaux, de sauvages, quelqu'un qui a rendu cet imaginaire plus beau, plus stimulant, et qui nous montre aussi que rien ne dure, mais que tout est éternel. Parce que cet homme, peut-être, a passé son temps à réinvestir les grands mythes de l'histoire de l'humanité. Cet homme, c'est Michel Tournier. C'est l'auteur de « Vendredi ou les limbes du Pacifique », son premier roman, publié alors qu'il avait 42 ans, et qu'il réécrira pour un public plus jeune en « Vendredi ou la vie sauvage », 4 ans plus tard. C'est l'auteur des Météores, c'est l'auteur de Gilet Jaune, c'est l'auteur du Roi des Aulnes, un roman pour lequel il a reçu le prix Goncourt en 1970. C'est un roman qui est né d'un poème de Goethe, dont le titre était Le Roi des Aulnes, et sur lequel vous l'entendrez à de multiples reprises pendant l'interview. Michel Tournier revient souvent. Il cite ses vers en allemand, des vers qui lui tiennent à cœur, des vers qu'on traduit là à l'instant, qu'on va traduire, qui chevauche si tard dans la nuit et le vent, c'est le père avec son enfant, il serre le jeune garçon dans ses bras, il le tient au chaud, il le protège. On retrouve là le motif de la phorie, du portage, cher à Michel Tournier. Lorsqu'il prononce ces vers, en allemand donc, Michel Tournier ferme les yeux, il est enfoncé dans le canapé d'un salon qui est jonché de livres. Michel Tournier est aussi un grand photographe, c'est aussi un grand mélomane, et les quelques musiques que vous entendrez au cours de l'émission, ce sont des musiques que vous reconnaîtrez, mais ce sont ses choix, et il y tenait beaucoup. Lorsque nous sommes allés lui rendre visite, c'était au mois d'avril, par une journée divine de soleil. Je dis divine parce que ça tombait bien. C'est en effet dans un presbytère que nous sommes entrés pour aller à sa rencontre. Le presbytère qu'habite Michel Tournier, juste à côté d'une église, dans un petit village de la vallée de Chevreuse. Un presbytère pour un homme qui d'ailleurs nous a avoué vivre de plus en plus comme un reclus. L'âge, vous l'entendrez en parler, en effet le taraude, le contraint à ne plus guère pouvoir sortir, ne plus guère pouvoir monter un escalier. Il parle beaucoup d'ascenseur pour l'aider à se véhiculer dans sa maison. Il a aujourd'hui 90 ans et il confesse son bonheur comme une consolation. Il en a d'autres, énormément d'autres. Mais son bonheur de recevoir chaque soir l'appel d'une jeune femme, toujours la même, au téléphone, qui converse avec lui sur des sujets très mystérieux. Il a été très mystérieux là-dessus. On a été extraordinairement surpris quand on est entré dans ce salon au canapé profond où Michel Tournier a semblé disparaître avec autour de lui, je le disais, ses livres répandus au sol comme après une sorte d'averse littéraire. Il y avait autour de lui des photos du photographe tchèque Jan Sodek, qui est un peu le prince des beautés perturbantes. Une photo de lui aussi en costume de petit Allemand, où il porte la culotte courte bavaroise. Il a 14 ans alors. Et puis des statues, des madones, des saints, et surtout un saint. Un saint Christophe, Christophoros en grec, veut dire qui porte le Christ. Et on n'est plus très loin, on le voit, du roi des aulnes. C'est encore ce motif dont je parlais, de la phorie. Saint Christophe, c'est l'homme qui porte l'enfant, en effet, et qui guide entièrement l'intrigue du roi des aulnes. Roman de l'enfance et du nazisme, roman de la cruauté et de la nature, roman de la perversion et de la pureté. Sur une table dans ce salon, veillé par la dame qui s'occupe de lui avec une grande bienveillance, une bienveillance qui est réciproque, en fait elle était là pendant l'entretien, il y a des boîtes qui contiennent des dizaines de carnets à spirale de son journal, non pas intime, mais extime, hein, comme Michel Tournier l'a baptisé. Un tas de carnets, de petites feuilles sèches où il écrit sa vie, ses pensées, les animaux qui passent dans son jardin. Et c'est en les lisant, pour nous, pour vous, au micro de France Culture, que Michel Tournier nous a avoué que peut-être, oui, peut-être, il laissera une dernière œuvre de fiction. Rendez-vous avec Michel Tournier. Nous avons beaucoup de chance, quel bonheur d'être avec vous. Bonjour Michel Tournier.
Bonjour, bonjour.
Alors, je voudrais d'abord vous demander comment vous allez.
Eh bien, je vais pas trop mal, mais malheureusement, je suis de plus en plus vieux.
Oui.
N'est-ce pas ? Et je vous l'aperçois. Malheureusement, mes jambes marchent de plus en plus mal. Alors, il y a à la télévision une publicité pour un fauteuil qui monte un étage. Alors évidemment, ça me frappe, n'est-ce pas ?
Ouais.
Mais enfin, j'en suis pas encore tout à fait là.
Ouais.
Mais ça va venir.
Mais qu'est-ce que ça change, en fait, mis à part le problème de
se véhiculer
d'un étage à l'autre,
vieillesse. Moi, j'ai besoin de marcher,
ouais.
J'ai besoin de sortir, j'ai besoin... Il y a des années que je ne suis pas acheté, je ne suis pas entré dans un magasin pour acheter quelque chose. C'est quand même énorme. Alors, ce qui aggrave tout, c'est que le village de Choisel, où j'habite, s'est vidé. De l'autre côté du mur, il y a une propriété splendide qui était la propriété d'Ingrid Bergman.
Mm-hmm.
Bon, elle est morte et elle n'a pas été remplacée. Et il n'y a personne dans sa propriété.
Et ce vide vous inquiète ?
En tout cas, il ne me remplit pas.
Ouais.
Alors, un peu plus loin, il y a la grille du château de Breteuil. Il n'y a pas non plus quelqu'un. Le château est vide. Non, ce qui est étonnant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la banlieue se vide. Il y a de moins en moins de monde qui habite ici. Il n'y a pas un magasin. Il y avait un magasin autrefois.
Donc c'est ça, c'est pas la vieillesse au fond, ça, c'est le temps qui passe simplement, et
oui,
la France qui change.
Je suis moins sensible,
ouais.
Je ne conduis plus, il y a des années que je n'ai pas pris le volant de ma voiture.
Oui, vous aimiez promener notamment
pas,
une chercher une statue du Christ, par exemple, en Bretagne.
Ça faisait partie de ma vie quotidienne. J'allais à Chevreuse, ici, on est à 3 km de Chevreuse, c'est-à-dire qu'on fait les courses à Chevreuse. On va au café à Chevreuse. On rencontre des amis à Chevreuse. C'est fini.
Alors, ça ressemble à quoi une journée de Michel Tournier aujourd'hui, puisque vous ne pouvez pas conduire ? Vous faites toujours de la photographie ?
J'en fais toujours un petit peu.
Ouais.
Pas beaucoup. J'avais un atelier
ouais.
Où je tirais mes photos. J'ai fait pendant 10 ans une émission mensuelle à la télévision sur la photographie.
Ouais.
Ça s'appelait Chambre Noire,
ouais.
N'est-ce pas ?
Oui, parce que vous étiez très ami de Lucien Clerc.
J'étais un grand ami.
Voilà, avec Lucien qui vous avez fondé les rencontres photographiques d'Arles.
Voilà.
Donc c'est quoi une journée aujourd'hui de Michel Tournier ?
Posez pas des questions indiscrètes.
Ah oui,
vous pouvez me dire.
C'est indiscret,
alors,
ça.
Qu'est-ce que vous foutez ?
Oui, alors qu'est-ce que vous foutez, Michel Tournier ?
Rien.
Ouais. Voilà. Rien.
J'ai écrit un journal, n'est-ce pas ?
Votre journal Extime.
Journal Extime, où il y a des réflexions, voilà. Alors, par exemple, j'ai une réflexion de mon journal Extime, je prends au hasard, hein. Pseudonyme. Il y aurait une revue plaisante à établir des noms difficiles à porter pour des artistes et des pseudonymes par lesquels ils les ont remplacés. Le chef-d'œuvre me paraît être Frédéric Austerlitz. C'est impossible de s'appeler Frédéric Austerlitz, qui a substitué à ce patronyme impossible le génial Fred Astaire.
Oui. Frédéric Austerlitz avait pris pour pseudonyme Fred Astaire. Pourquoi ? Parce que c'était trop... Frédéric Austerlitz, c'était trop solaire, trop éclatant ?
Austerlitz, c'est tout Napoléon, non ? C'est pas possible.
Donc ça, c'est votre journal. Je le décris quand même pour les auditeurs. Ce sont des petits, donc des carnets à spirale.
Oui.
Et il y en a tout un tas, là, sur la table.
Évidemment.
Voilà.
Mais je suis vieux.
Ouais. Donc vous écrivez à la main sur ces carnets à spirale.
Oui.
Et c'est quoi ce journal Extime ?
Samedi 12 octobre, deux chevreuils errent dans mon jardin. Extraordinaire. La grille est toujours ouverte. Ouais. Alors, les animaux entrent. Et voilà.
Ouais. Ça, c'est 12 octobre. Qu'est-ce que vous avez écrit hier, par exemple ? Vous avez écrit hier ? C'est tous les jours, cette pratique du journal Extime ?
Pas tous les jours. J'ai pas du tout un devoir. N'est-ce pas ?
C'est pas une assaise, une discipline, une...
Par exemple, pour un épitaphe ou une épitaphe pour mon œuvre, je t'ai adoré, tu me l'as rendu au centuple, merci la vie.
Vous parlez d'épitaphe, c'est l'épitaphe que vous aimeriez qu'on grave sur votre tombe ?
Que je pourrais avoir.
Ouais. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette pièce avec tous ces livres que vous mettez au sol ? Cette statue, on est où en fait ici ? C'est le salon, mais c'est là où vous travaillez ?
C'est tout.
C'est quoi cette pièce en fait ?
Bah, c'est la pièce où je vis,
ouais.
À peu près... je sais pas moi, 18 heures par jour.
Ouais.
En tout cas, plus de la moitié de la journée.
Et qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on voit des photos de... C'est Yann Sodek, le photographe
Oh, c'est possible.
Ouais. Et cette statue de ce Christ portant
Christ
l'enfant.
Porté par Saint-Christophe. Christophe, ça veut dire porte-Christ.
Ouais, Christophoros. Ouais.
Christophoros.
Ouais, ouais.
C'est un rapport, ça renvoie... Au roi des ondes.
Exactement.
Verreite so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Mes parents m'ont fait ce cadeau merveilleux que je recommande infiniment aux parents de faire à leur fils ou à leur fille une langue étrangère. J'ai été élevé en français et en allemand.
Ouais.
Mes parents se sont connus comme professeurs d'allemand ou comme étudiant d'allemand, n'est-ce pas ? Et dès ma petite enfance, ils m'ont envoyé en Allemagne. C'était affreux, parce que c'était le nazisme. Moi, j'ai connu l'Allemagne en 37.
Vous aviez quel âge en 37 ?
Ben, j'avais 10 ans.
10 ans, ouais.
Alors...
Et vous avez senti à 10 ans, que vous avez senti, perçu à 10 ans que quelque chose montait...
C'était éclatant.
Ouais. Qu'est-ce que vous sentiez ?
Une agressivité. Parce que l'Allemagne de cette époque vivait sur la défaite de 1918. N'est-ce pas ? Pour eux, la France, c'était le vainqueur de 1918.
Et ça, à 10 ans, vous perceviez cette agressivité ?
Ah bah, très bien. Puis alors, il y avait une famille qui me recevait.
Ouais.
N'est-ce pas ? Alors, dans cette famille... Les garçons de mon âge, à 10 ans, étaient embarqués dans la jeunesse hitlérienne. Je les voyais.
Hein. Vos copains, en fait, vos camarades.
Ah oui, mes camarades.
Ouais. Et dans ce qu'ils vous disaient, il y avait des choses aussi, même dans leurs discussions d'enfants, à 10 ans, ben il y avait aussi cette agressivité, cette toxicité.
Hayot. Ça veut dire jeunesse italienne. Hitler Jugend. Et j'ai vécu ça très jeune. Puis alors, il y avait le passé, la guerre de 14-18, l'avenir, on se sentait venir.
C'est-à-dire quoi, la guerre?
La guerre de 39. Et alors, nous avions une maison à Saint-Germain-en-Laye, et nous avions 12 Allemands, soldats allemands, qui vivaient dans la maison. Et quand l'Allemagne a attaqué la Russie, ils sont partis. Et je me souviens très bien que ma mère leur a dit, s'il y en a qui veulent rester, qui le disent, je les cacherai.
Par exemple, cette madone à l'enfant,
oui.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pourquoi vous l'avez mise là
sur cette... C'est un cadeau qui m'a été fait.
Ouais.
Et j'ai jugé qu'il fallait le garder. Ouais. Il en valait la peine. N'est-ce pas?
Et ce Christ qu'on voit au fond, c'est rare de voir... C'est pas le Christ, c'est Joseph.
Oui.
C'est Joseph qui porte le Christ. C'est extrêmement rare de voir une figure masculine qui porte l'enfant.
C'est un cadeau de l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, où j'allais tous les ans, n'est-ce pas, et où je faisais une conférence. Et un jour, j'ai dit, moi, le passage le plus important des évangiles, c'est lorsque Saint-Joseph porte l'enfant Jésus. Malheureusement, la statuaire, l'imagerie chrétienne n'existe pas pour Saint-Joseph portant un enfant. Et l'année suivante, je vais à l'abbaye et la directrice me dit, j'ai une bonne surprise pour vous, Michel. On vous a trouvé un Saint-Joseph avec le petit Jésus. Et il m'a donné ça.
Donc c'est un Christophore, au sens étymologique.
Christophore,
c'est un Christophore. Ouais.
Voilà.
Ouais. Et est-ce que la musique joue un rôle particulier dans votre activité d'écrivain?
C'est-à-dire, j'ai surtout du regret. Je suis le seul de la famille à ne jamais avoir touché un instrument de musique. Le piano, c'est parti de l'éducation de mes frères et sœurs, et moi, j'ai jamais touché un piano. C'est un grand regret, là, vous touchez quelque chose de douloureux, car j'ai été nul de ce point de vue-là. Voilà.
Et quand vous écrivez en musique, vous mettez de la musique avant, quand vous écrivez?
Non.
Jamais?
Non.
C'est la musique intérieure qui suffit?
Non, ça n'a pas de rapport. Sauf que, évidemment, j'aurais aimé composer, et surtout, j'aurais aimé avoir un piano, ici, dans cette pièce. Cela dit, il y a un côté physique dans un instrument de musique. Je me souviens, mon frère Jean-Loup, qui est plus jeune que moi, était violoniste. Et un jour, je lui ai dit, alors, le violon, j'ai abandonné, je suis trop vieux, mes mains ne suivent plus. C'est horrible. Il faut pas oublier qu'un instrument de musique, c'est aussi un physicien, quelqu'un qui agit physiquement sur l'instrument de musique. Et il est évident que quand on n'a pas le souffle, on ne veut pas jouer de la flûte. Quand on n'a plus de main, on ne veut pas toucher au piano. C'est douloureux.
Mais ça, on a aussi la même chose pour un romancier, pour un écrivain.
Pardon ?
Il y a une dimension physique dans l'acte d'écrire aussi. Il faut du souffle pour écrire.
Non, c'est pas la même chose.
Il faut des mains. Si les mains tremblent, on ne peut plus écrire.
Et si les mains tremblent, ça n'a pas d'importance. Tandis que si les mains tremblent et que vous êtes pianiste, ah oui, alors.
Si les mains tremblent et que vous écrivez à la main sur votre carnet à spirale,
oui.
Plus personne va pouvoir vous lire.
Non, non, si, si. Je fais un effort et on me lira. Tandis que le pianiste, il a beau faire des efforts, on n'écoutera pas. Il est un mauvais pianiste. Bah.
Donc on peut écrire jusqu'à sa mort, en fait, quand on est écrivain.
Bah oui,
alors qu'on
raison.
Peut plus, alors
on
qu'on
peut même parler. On n'est pas obligé d'écrire. On peut enregistrer.
Quand je vous disais, voilà, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça ressemble une journée de Michel Tourné, donc vous êtes là, parmi ces livres, hein, ils sont... Pourquoi vous les mettez par terre, vos livres?
Parce que je
n'en prenez pas soin.
Et alors, régulièrement, il y a des amis qui s'en vont avec un carton de livres sous le bras.
Ouais. Ah oui, qui prennent, qui se servent chez vous, comme ça?
Hein? Avec mon accord.
Oui.
Ah oui. Mais enfin, ouais. Ils viennent les, il faut bien les prendre.
Ouais.
Il faut en faire quelque chose.
Exactement.
Ouais.
C'est aussi dans cette pièce que vous écrivez votre journal Extime. Et vous
oui,
avez...
par exemple, mardi 4 février, visite d'Antoine Gallimard à propos de ma Pléiade. Je suis pas en Pléiade.
Et vous allez l'être, bientôt.
Je veux y être. J'y tiens pas tellement, parce que moi, ce que je veux, c'est être lu. Oh, pour être lu, c'est pas la Pléiade.
Ben, ça sert à quoi, alors?
C'est... un spectacle. Tu vois, c'est à regarder. On regarde la Pléiade dans un rayon.
Ah oui, c'est ça, c'est de la contemplation.
Voilà.
Ouais.
Tandis que la lecture, c'est autre chose. Heureusement, il y a le contraire de la Pléiade qui est le livre de poche.
Alors le là, folio, c'est ça?
Voilà.
Ouais.
Alors là, ça c'est y va. Je vais vraiment pas me plaindre.
Et vous avez toujours une lectrice qui vous appelle tous les soirs, chaque soir à 21h? C'est vrai, ça?
Oui, oui, oui.
Ouais. Donc, chaque soir, à la même heure, elle vous appelle?
Oh, faut pas exagérer.
Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Elle m'appelle régulièrement.
Elle vous demande...
Que je vais raconter un peu ma journée.
Ouais.
Votre visite.
Voilà, ah, c'est ça, vous lui raconterez notre visite ce soir.
Voilà.
Ah, très bien. Et alors, Michel Tournier, on vous a souvent donné comme nobélisable. Et je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand vous avez appris... que Patrick Modiano, que vous aimez beaucoup, dont vous aimez beaucoup la littérature, avait été couronné par ce prix Nobel.
Eh ben, écoutez, au point de vue prix, j'ai pas à me plaindre. Grand prix du roman de l'Académie française pour vendredi, prix Goncourt pour le roi des zones, prix Goncourt à l'unanimité. Puis quoi encore?
Ouais. Non, mais quand Modiano a eu le prix Nobel, qu'est-ce que vous avez ressenti
J'étais très heureux.
Ouais.
Moi, j'admire beaucoup.
Oui, parce que vous avez fait
beaucoup.
Vous avez fait beaucoup, même pour son pour son concours. C'est vous qui l'aviez qui aviez aidé à le propulser à l'époque.
J'ai une citation de Madame de Staël : la gloire est le deuil éclatant
du bonheur.
Du bonheur.
Ouais. Pourquoi vous aimez cette citation?
Ça me plaît, c'est la question de paradoxale. Que la gloire soit le deuil.
Ouais.
Pas exagéré, quand même.
Pourquoi vous avez décidé de ne plus écrire de romans, en fait? Puisque le dernier, c'était Et le hasard ou la source et le buisson. Pourquoi vous avez renoncé à nous donner un roman de plus?
Non, on écrit ce qu'on a envie d'écrire, n'est-ce pas? C'est un des rares métiers qu'on ne fait pas de force. Et j'écris encore.
Ouais. Mais pas de roman.
Je sais pas. Peut-être que ça donnera un roman.
Ah, peut-être que ça donnera un roman.
Ouais. Ah, peut-être. Ouais.
Parce que quand vous dites « on écrit que ce qu'on a envie d'écrire », en même temps, on se dit depuis 96...
Bah, parce que c'est horrible. Quand on va travailler, on est pris dans une petite communauté, petite ou grande. On est entouré de collaborateurs, de patrons, de subordonnés, etc. Pas quand on est écrivain et qu'on travaille à son bureau. Et tout seul.
Mmh. Oui.
Si je veux regarder la télévision, personne ne m'en empêche.
Ouais.
Ouais. Et il y a quand même un niveau où on s'arrête.
Ouais. La littérature, c'est aussi une question d'âge ?
Bah, comme tout, quoi.
Physiquement, il y a un moment où on a du mal à écrire ?
Non, parce que... Mais enfin, on se demande pourquoi.
Ouais.
Il faut en avoir le besoin. C'est une question d'âge. J'ai dépassé 90 ans.
Ouais. Ouais.
Mon père a vécu 15 ans de moins. Il a été tué par le tabac.
Mm-hmm.
J'ai jamais fumé.
Mais vous n'avez plus ce besoin, justement, d'écrire des romans ? Vous parliez de besoin. Vous n'avez plus ce besoin d'écrire des romans ?
Peut-être que j'essaie derrière moi un manuscrit publiable.
Ah.
On verra bien.
C'est une information que vous nous donnez, là.
Ben voilà.
Parce que la soif d'inventer, la soif de raconter des histoires, de faire comprendre le monde, parce qu'un roman, c'est aussi un instrument pour faire comprendre le monde au lecteur,
oui,
surtout chez vous, la dimension symbolique, mythique et fondamentale. Ça, vous l'avez encore au fond de vous.
Oui, certainement.
Et donc, vous aimeriez peut-être transmettre une dernière histoire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Ouais.
Vous avez le titre ou...
Mêlez-vous le si vous regardez.
Je disais, je relisais dans le Roi des Aulnes, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d'homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué. La littérature, est-ce qu'elle ne sert pas aussi à cela, à découvrir finalement la perversion à laquelle on est voué ?
Qu'est-ce que c'est que la perversion ? Je dirais... C'est la beauté du mal. Voilà. Par exemple, physiquement, il y a des femmes qui sont belles de façon perverse. Je n'ai pas besoin de vous donner des noms.
Votre voisine, par exemple, Ingrid Bergman.
J'en sais rien.
Ah, mais ce côté, vous... Je voulais savoir De quoi partent vos livres ? Umberto Eco, par exemple, il dit qu'il y a toujours une image séminale. C'est une image, ça passe par l'image, qui lui donne envie. Le nom de la rose, par exemple, il l'écrit parce qu'il a cette image du moine qui s'empoisonne en lisant. Vous, vos livres, ils partaient de quoi au départ ? Le ressort principal de vos livres ?
Je ne sais pas.
C'est pas ?
Non. C'est trop facile.
Ouais. Vendredi, par exemple.
Bah, vendredi, c'est le copain de Vendredi.
Mmh.
Il y avait un couple célèbre.
Mmh.
Les Robinson et Vendredi. Moi, j'ai braqué le projecteur sur Vendredi. N'est-ce pas ? Et alors, en plus, il y a une chose que deux fous ignoraient complètement, c'est le culte du sauvage.
Mmh.
La pureté de l'homme sauvage. Une chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre.
Mmh. Bah, la pureté, vous êtes plutôt hostile à la notion de pureté.
C'est aussi un vice.
Voilà, c'est un vice.
Bien sûr.
Voilà. Et le Roi des Aulnes, ça partait de... Ça partait de Goethe aussi.
Ouais,
c'est d'abord le...
D'abord,
c'est Erl König.
Un poème célèbre.
Ouais.
Wer reit so spät durch Nacht und Wind, dieser Vater mit seinem Kind.
Ouais, c'est le père avec son fils. Ouais.
Je...
Est-ce que ce qui est à l'origine de vos romans, est-ce que c'est pas justement ce mythe à chaque fois, cette histoire ou une allégorie ?
Ben oui.
Voilà,
une
constamment.
Une histoire pleine de sens et qui bouleverse tout. Je vois.
Qu'est-ce que c'est le mythe ? Comment vous le définiriez, le mythe ?
Ben, c'est une histoire qui apparemment est un fait divers et en fait a des racines très profondes. Je vois. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. L'homme qui porte son enfant. Et le roi des eaux arrive et lui vole son enfant.
Et le roman est fait aussi pour, finalement, réécrire ces mythes.
Bah oui,
écrire, la littérature, c'est réécrire du mythe.
Ben bah oui. Mais oui. Pourquoi voulez-vous que ce soit autre chose ? Les histoires d'amour, hein, Tristan et Iseux, c'est fondamental. Non, ça, je crois que...
La gémellité, c'est pareil, c'est Castor et Pollux.
Ben voilà.
La guerre, c'est l'Iliade.
La guerre. Il faut un sujet. Moi, je suis parmi les auteurs à qui il faut un grand sujet.
Ouais.
À commencer par Vendredi. Ouais. Vendredi, Robinson, c'est un grand sujet.
Ouais.
C'est la civilisation. C'est ça.
Contre l'État sauvage.
Hein, voilà.
C'est ce que vous disiez. Alors, on a Saint-Christophe, le porteur de Christ,
oui.
Le porteur d'enfants,
oui.
Aussi avec le roi des aulnes. On a les rois mages, aussi, Castor et Pollux aussi, pour les météores, peut-être la gémellité absolue.
Les rois mages, c'est évident que c'est un grand mythe.
Mmh. Et ben, vous avez eu le besoin, vous, d'inventer un quatrième personnage. Donc le mythe, on a le droit aussi de le distordre, on a le droit de...
On se l'approprie.
Toute la gloire de Christophe est d'être à la fois bête de somme et ostensoir. C'est vous qui avez écrit ça. On est frappé, Michel Tournier, aussi par la quantité de sexualité qui se donne aussi à lire dans vos livres. Je repensais à la mandragore de Vendredi. Et au fait que Robinson est très mécontent quand il voit que Vendredi sème aussi des mandragores. Le sexuel, c'est mythologique ?
Je ne crois pas.
Alors pourquoi il y a autant de sexualité dans vos livres ? De sexualité primitive, essentielle,
il me semble que
élémentale.
C'est la source de la chaleur, c'est la source du mouvement. L'histoire, un amour, c'est la sexualité. Il n'y a pas d'amour sans sexualité.
Il y a des traditions d'amour sans sexualité.
Pas sans. Niant.
Ouais.
La sexualité.
Niant. La cachant.
Voilà.
Ouais. Mais alors pourquoi autant de sexualité ? Parce que c'est ça, c'est la chaleur, c'est juste... Qu'est-ce que ça veut dire, cette polysexualité ? La fusion homme, nature, élément, la boue, c'est votre marque de fabrique, ça.
Et puis attention, la production, tout de même. Pour être père, il faut une femme qui est mère.
Vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez dit, j'ai besoin pour écrire d'un grand sujet. Un grand sujet, vous pourriez le trouver dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire. Or, vous avez besoin de le trouver dans le mythe, c'est-à-dire ces histoires inventées, ces histoires fondatrices. Pourquoi est-ce que vous avez à ce point besoin de vous inscrire dans ces histoires déjà racontées?
Je ne peux pas m'empêcher de penser à un cas tout à fait frappant pour nous, surtout français, qui est Napoléon. Napoléon, à Sainte-Hélène, disait « Quel roman que ma vie !» C'est extraordinaire, effectivement. Tout y est, à commencer par l'amour.
Et pourquoi Napoléon? Mais Napoléon, c'est une histoire, c'est un roman vrai.
Oui, bah c'est
un
ça.
Un mythe est-il un roman vrai? Non, parce que c'est vrai, quand on relit aussi un certain nombre de vos textes, il y a cette idée, vous avez dit tout à l'heure, j'ai besoin d'être lu. Vous savez que Gide disait, moi j'ai besoin d'être relu. Gide demandait deux lectures. Parce qu'il y avait la première lecture et puis le plan symbolique.
Mmh.
Et vous, vous dites, moi j'ai besoin d'être relu, mais en une fois. En fait, il faut que la symbolique se dégage immédiatement.
Ah, oui.
Et la question qui se pose pour vous, vous avez parlé du métier d'écrivain, où on s'assoit à une table, où on écrit ce qu'on veut. On n'a pas de collègue, on n'a pas de chef, on écrit ce qu'on veut. Et ce besoin de vous mettre dans les pas d'une histoire ancestrale, c'est ça qui m'intéresse, qu'on voudrait comprendre. Pourquoi avoir besoin de cette colonne vertébrale?
Oh, arrêtez avec vous, pourquoi? J'ai pas d'explication à tout, moi. Je ne suis pas un cristal transparent où on voit tout. J'ai des tripes obscures et sombres.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Vous comparez l'écriture à une marmite qui mijote à petit feu. C'est dans Le Vent Paraclet que vous écrivez ça. C'est aussi, pourquoi ce besoin du petit feu, du peu... C'est long le processus d'écriture?
Ça, c'est
chez vous?
C'est une affaire personnelle.
Ouais.
Je pense que il y a des écrivains qui se mettent à leur table et qui n'en décollent pas jusqu'à ce que le livre soit fait.
Stendhal.
Et ça prend peu de choses.
Ouais.
Ça prend peu de temps, je veux dire. Déjà.
Mais vous, vous avez besoin de temps pour l'écriture.
Ah oui.
Il y a une phrase sur laquelle je voudrais, pardon, ça sera encore un pourquoi, mais sur laquelle je voudrais vous interroger. C'est dans Le Vent Paraclet aussi. Faire œuvre littéraire, mais ne jamais oublier que je venais d'ailleurs. Et rester dans le monde des lettres, un homme d'ailleurs. Il ne fallait pas renoncer aux armes admirables que mes maîtres métaphysiques avaient mises entre mes mains. La philosophie a vraiment été déterminante à ce point dans votre création romanesque?
Oui. Si on me demandait quel est le plus grand livre qui ait jamais été écrit, qu'est-ce que vous voyez que je dirais?
Ben, je ne sais pas.
L'éthique de Spinoza.
Ouais.
On ne pouvait pas mieux faire.
Pourquoi l'éthique de Spinoza est
j'en sais
dans
rien.
Un livre?
Mais ça s'impose. Il est là, il doit être...
Parmi les livres, là. Mais c'est pas l'Iliade, vous dites, voilà. Ouais.
C'est l'éthique de Spinoza.
Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, tant, dans l'éthique de Spinoza, dans sa forme? Vous dites, c'est le plus grand livre jamais écrit.
Il y a
on veut des explications, monsieur Tourny.
Il y a tout dedans.
Ouais.
La passion,
ouais.
La souffrance, le plaisir, la production, tout y est. C'est un livre absolument fabuleux, c'est le numéro un d'une bibliothèque.
Quel regard, on parlait tout à l'heure de Vendredi. Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, vous avez commencé, vous aviez 42 ans. C'est ça. C'est bien tard quand on voit Modiano,
bon,
23 ans. Pourquoi avoir finalement si, je ne vais pas dire tardé, pourquoi il a fallu tant de temps pour arriver enfin à écrire Vendredi ou Les Limbes du Pacifique?
Il y a un fait certain, je ne suis pas précoce. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Et je viens bien dans un sens.
Ouais.
Il y a qu'à voir à quel âge j'ai publié pour la première fois. Vous êtes très vieux déjà.
Ouais.
C'est dans ma nature, c'est dans mon caractère, et je ne suis pas précoce.
Ouais.
Si j'étais précoce, je ne serais pas là.
Pourquoi? Parce que vous seriez...
Parce que je serais mort.
La précocité littéraire...
Bah, évidemment. Les précoces, ils meurent jeunes.
Ouais.
Non?
Parfois, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Comme finalement, comme Rimbaud.
Bah oui,
on
ne
sait
voilà.
plus très bien. Voilà. Ouais. Et alors, sur Vendredi, quel regard vous portez ? Est-ce que d'ailleurs vous relisez de temps en temps ? Est-ce que vous relisez Vendredi quelques pages des livres déjà écrits ?
Ouais. Ça m'arrive.
Et quel regard vous portez sur Vendredi ou les Limbes du Pacifique ?
Je trouve ça plutôt bon.
Ouais. Ouais. Mis à part la qualité littéraire, est-ce que ça vous fait... est-ce que vous le lisez comme le jeune homme ou le plus jeune homme que vous étiez ? Est-ce que vous y trouvez des enseignements à nouveau ? D'autres clés sur vous-même ? Sur vos perversions, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Ben, j'ai donné récemment, ici, à la mairie, mon épitaphe.
Ce que vous disiez tout à l'heure, l'épitaphe. Je t'ai adoré, tu me l'as rendu au centuple, merci la vie.
Voilà.
C'est celle qu'il y aura sur votre tombe.
Voilà. Ouais. Ouais. La mairie est venue chercher.
Chercher le texte de votre main.
Ils sont venus, ils m'ont demandé, voulez-vous une place au cimetière. J'ai dit oui. Voulez-vous un texte ? J'ai dit oui. Quel texte ? Et j'ai donné ce texte-là. Parce que moi, je crois, la grande question qu'on se pose à tout moment de la vie, mais surtout à la fin, est-ce que j'ai eu de la chance ? Alors, premièrement, est-ce que j'ai eu de bons parents ? Est-ce que j'ai eu de bons maîtres ? Et quelle époque j'ai vécu ? Moi, j'ai vécu une époque horrible. J'étais élevé un pied en Allemagne. C'était l'Allemagne d'Hitler. C'est absolument atroce, n'est-ce pas ?
Donc vous avez eu la chance.
J'ai eu la chance.
Ouais. C'est la question qu'on se pose, c'est j'ai eu la chance, c'est pas est-ce que j'ai été heureux ? C'est la chance.
La chance. C'est l'extérieur, n'est-ce pas ? C'est les événements qui vous tombent sur la tête.
Ouais. Le fatum.
Voilà.
Le kairos.
Voilà. Ouais. Tandis que être heureux, c'est un petit peu l'intimité.
Sur Vendredi ou les Limbes du Pacifique, vous dites souvent que la réussite de ce roman, et là je vous cite, elle est attestée à vos yeux par le témoignage de deux lecteurs extrêmes. D'un côté, un enfant... C'est votre phrase. De l'autre, un métaphysicien. Le métaphysicien, c'était Gilles Deleuze, qui a donné une postface à Vendredi. Pourquoi avoir décidé d'adapter Vendredi pour la jeunesse ? De faire un Vendredi ou les Limbes, devenu Vendredi ou la vie sauvage, pour que les enfants puissent le lire ? Pourquoi avoir décidé de l'adapter ?
À l'époque, j'étais invité très souvent dans les écoles. Et quand j'arrivais, les gosses avaient tous un exemplaire de Vendredi ou La vie sauvage en poche. Et je leur signais un épigraphe.
Oui, mais pourquoi vous avez décidé d'en faire un pour les enfants ? Pourquoi c'était si important à vos yeux ?
Mais parce que les enfants, c'est important. Et puis, de l'autre côté, c'est un véritable travail. Il ne faut pas croire qu'on simplifie et que ça va tout seul. Pas du tout. On simplifie, oui, mais ça va pas tout seul. Il faut le faire.
Pourquoi les enfants comptent autant ?
Je ne sais pas. En tout cas, je trouve très important d'être lu par des moins de 14 ans.
C'est les meilleurs lecteurs ?
Ce simple fait que j'ai la certitude que dans un grand nombre de cas, je ne dis pas tous les cas, mais dans un grand nombre de cas, c'est le seul livre qu'il y a. C'est énorme. Moi, les livres que j'ai lus à 10, 12 ans, 14 ans, c'est énorme la place que ça a tenue dans ma vie.
Et là, Vendredi, c'est le seul livre.
Alors, il y avait London, Jack London, James Oliver Curwood.
Oui. Le chasseur d'or.
Voilà.
Ouais. Ça, c'est ce que vous lisiez, vous ?
Oui, quand j'étais enfant.
En quoi est-ce que vous êtes particulièrement touché ou ému qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans vous lise ? En quoi c'est important, plus important que quelqu'un de 40 ou 50 ou 60 ? Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est par optimisme ? Est-ce que c'est par besoin de transmettre ?
C'est qu'il y a, hélas, 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 une chance, si on peut dire, disons un danger... qui ne lise pas autre chose. Ce sera son livre. Ben, c'est capital, quand même.
L'enfant, c'est aussi un lecteur idéal ?
Non.
Non ?
Non, pas du tout.
Mais qu'est-ce qui vous touche tant dans l'enfance ? Parce que c'est vrai que vous avez des très très belles phrases. Je vous cite, et je cite pour les auditeurs aussi qui nous écoutent, dans Le Roi des Aulnes, « L'enfant de 12 ans a atteint un point d'équilibre et d'épanouissement insurpassable qui fait de lui le chef-d'œuvre de la création. Il est heureux, sûr de lui, confiant dans l'univers qui l'entoure et qui lui paraît parfaitement ordonné. Il est si beau de visage et de corps que toute beauté humaine n'est que le reflet plus ou moins lointain de cet âge. Et puis, c'est la catastrophe. »
En juste, c'est la catastrophe.
Ouais.
Parce que la puberté est catastrophique.
Ouais. Ben, c'est vrai que c'est pas une période glorieuse.
C'est un trouble.
Ouais.
La puberté, la sexualité qui arrive, non, c'est...
Mais cette enfance, pour vous, c'est un âge d'or. Pourquoi cette enfance vous fascine autant ? Est-ce que c'est au regard de la vôtre, de votre enfance ? Ou...
J'ai eu une très belle enfance.
Ouais.
Sauf, évidemment, les points de vue politiques. Patatras, la guerre de 14. Mon père était un grand blessé de la guerre de 14. Enfin, il était ce qu'on appelait une gueule cassée. Enfin, c'est-à-dire que, visiblement, sa mâchoire avait été réparée. Et je n'ai jamais entendu mon père prononcer un mot d'allemand.
Alors qu'il était germaniste.
Il était germaniste.
Ouais.
Mon père était radicalement anti-nazi, anti-allemand. Pour lui, il disait que l'anglais... J'ai toujours vu mon père avec des romans anglais dans la main, n'est-ce pas ?
Et néanmoins, vous dites que si on a un enfant, l'un des plus grands bienfaits qu'on puisse lui faire, c'est de lui offrir une seconde patrie grâce à une autre langue.
Bah évidemment.
Parce que qu'est-ce que ça donne de plus ? On est aujourd'hui à une époque, par exemple, où le grec et le latin, vous avez suivi, vont disparaître. Des petites classes en cinquième, en quatrième, on ne pourra plus faire du grec et du latin, on ne pourra plus se frotter à ces langues du passé. En quoi est-ce que la langue change un enfant ou le décuple sa vie ? Vous dites que c'est le plus grand bienfait qu'on puisse faire à un enfant, de lui offrir une deuxième langue.
Bah, écoutez, qu'est-ce que c'est que la langue pour un enfant ? C'est l'esprit. Un enfant qui ne parle pas, c'est un enfant qui est abruti.
Donc s'il parle deux langues ?
C'est encore mieux.
On dit aujourd'hui que Michel Tournier, c'est un classique. Vous êtes devenu un classique. Ça fait quoi d'être un classique ? Et comment vous
dites ? C'est vous qui le dites.
Ouais. Ah bah oui, alors, vous êtes étudié en classe, donc vous êtes déjà un classique, au sens là presque étymologique. Mais ça vous fait quoi de savoir que vendredi, où la vie sauvage, les limbes aussi, mais où la vie sauvage, est un classique. Et vous êtes encore vivant et vous êtes un classique.
Ce sont des livres qui m'échappent. Ce n'est plus moi. Je n'ai pas une ligne, un mot à changer, car ce n'est plus moi.
Vous parliez de votre réflexion, d'ailleurs, qui était dans le journal Extime. Vous en avez lu un extrait tout à l'heure sur les pseudonymes. Vous parliez de Frank Austerlitz, devenu Fred Astaire. Tournier, Michel Tournier. Vous n'avez jamais songé à prendre vous-même un pseudonyme ?
Non, je veux Tournier. C'est pas mal. Mon grand-père, ma mère, s'appelait Fournier. Mm-hmm. C'est pas mal, que fait. Une demoiselle Fournier qui épouse un monsieur Tournier. Mm. N'est-ce pas ? Un de mes grands regrets, c'est que mon père est mort sans avoir lu un de mes livres. Il est mort prématurément, emporté par le tabac. J'ai toujours vu mon père avec une cigarette. C'était un paquet de 20 cigarettes par jour.
Vous auriez été fier.
Je l'aimais beaucoup.
Ou curieux, ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que le roman peut mourir ? L'art du roman, le roman peut-il mourir ?
Sûrement. Sûrement. C'est très bien. C'est pas... Tout peut mourir.
Vous êtes toujours dévoré de, comme vous l'écriviez, de nostalgie et de regrets en vous souvenant de scènes de votre vie. Vous écriviez ça. Je suis dévoré de nostalgie et de regrets en me souvenant de scènes de ma vie auxquelles je n'ai pas accordé l'attention qu'elles méritaient.
Oui,
vous êtes toujours dans ce sentiment-là ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui ? À quelle scène vous regrettez de ne pas avoir accordé l'attention qu'elle méritait, que
quelle
ces moments méritaient ?
Ouais. Quelle question ! J'ai traversé des événements énormes. La guerre. Et j'étais juste trop jeune pour en être mêlé. J'ai pas été mobilisé en 1939 parce que j'avais 14 ans. C'était vraiment la limite, hein. Alors, j'allais en Allemagne beaucoup, mais je ne suis jamais compromis avec les nazis. Jamais. Alors que, il y avait la jeunesse hitlérienne. Mes copains étaient tous Ayot.
Ayot, c'est la jeunesse, c'est ça. Hitlerjugend.
Hitlerjugend.
Ouais.
Et ils ne pouvaient pas faire autrement.
Ouais. Mais ça vous regrettez quelque chose de cette. Des moments, par
non,
exemple, que
non,
vous auriez pu passer avec eux et...
Je ne peux vraiment pas dire qu'ils m'aient séduit. Au contraire. Je restais français et je ne voulais pas entendre parler. De ces défilés de jeunesse hitlérienne, etc.
Et dernière question, Michel Tournier. Qu'est-ce qu'il faut faire lire aux enfants d'aujourd'hui ? On est dans une époque où on a l'impression que tout ce qui vient du passé est mauvais, que toute notre mémoire doit être jetée aux orties. Qu'est-ce qu'il faut faire lire aux enfants d'aujourd'hui ? À part Vendredi ou La Vie Sauvage.
Je ne sais pas.
Si vous deviez vous adresser à la jeunesse, voilà, certains nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, des gens qui ont des enfants et qui veulent justement que cette transmission romanesque, les grands mythes par exemple, est-ce qu'il faut raconter, parler aux enfants des grands mythes,
des grands mythes ? Non, il y a quelque chose de très important pour les enfants, c'est l'animal. Avoir un chien. Ça, c'est terrible. J'ai beaucoup souffert. J'ai eu deux chiens. J'ai beaucoup souffert. Parce que je les ai perdus tous les deux. Le chien a ceci de terrible. Il est fragile. Et il vieillit vite. Un chien est vieux à 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chien de 10 ans? 10 ans, c'est rien. J'ai eu deux chiens. J'ai beaucoup souffert dans ma enfance. De la disparition de ces deux chiens.
Donc l'animalité, c'est très important d'initier l'enfant à l'animalité.
Voilà.
Mais vous dites aussi que la mythologie, c'est lié à l'animalité.
Si on veut.
Ouais.
Parce que le chien, c'est le loup, c'est le renard. Ouais. Il y a toute une mythologie.
Ouais.
L'aigle, de l'animal. Voilà.
Ouais.
Il va y venir un jour si vous ne savez peut-être pas. Le plus grand écrivain espagnol, c'est Cervantes. Le plus grand écrivain anglais, c'est Shakespeare qui s'y approche. Ils sont morts le même jour. Cervantes à 69 ans, Shakespeare à 52 ans, et c'était tous les deux le 23 avril 1616. C'est extraordinaire, non? Personne, le 23 avril, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui?
Donc c'est ça maintenant votre occupation?
Non.
C'est de noter
mais non, comme ça. Mais non. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui?
Le 8 avril. 8 avril.
Le 8 avril. Ouais. Le 23, vous direz, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est la mort de Shakespeare et Cervantes.
Le 23 avril.
Oui.
Ah voilà. Bon, ben on viendra vous voir alors.
Non.
On fêtera ça ensemble. Pourquoi non?
Faites ce que vous voulez. Mais fêtez-le.
Vous le fêterez, vous? Vous fêterez cette...
Non. Mais quand même, c'est incroyable que Cervantes soit mort le 23 avril 1616 à 69 ans et Shakespeare le 23 avril 1616 à 52 ans. Voilà.
Eh bien, merci,
Michel
Tournier.
Vous n'avez pas perdu votre temps.
Ben non, j'ai pas perdu mon temps. Vous non plus, j'espère.
Non.
Bon, alors tout va bien. Au revoir, Michel Tournier.
Voilà.
Eh bien, voilà, c'était un moment extrêmement précieux avec Michel Tournier, le grand écrivain Michel Tournier. On est sorti de l'interview absolument ragaillardi, vitaminé par la présence de Michel Tournier, si vivant. Et en plus, je disais ragaillardi, mais surtout avec l'espérance, comme il nous l'a laissé entendre, qu'il travaillait sur une prochaine œuvre de fiction. Alors, on n'en dit pas beaucoup plus, puisqu'on a essayé, vous avez entendu pendant l'interview, il nous a dit de nous mêler de nos affaires, on respecte les affaires du grand écrivain, mais on attend cette œuvre de fiction. Alors, en attendant, précisément, on vous annonce que Michel Tournier publie quand même un nouveau livre le 25 juin prochain, c'est chez Gallimard, ça s'appelle « Lettres parlées », il s'agit d'un recueil des lettres qu'il a enregistrées sur des bandes magnétiques et envoyées à son ami Helmut Waller, son ami allemand qu'il avait rencontré à Tübingen en 1946, alors qu'il était, il avait alors 22 ans, Michel Tournier, étudiant en philosophie en Allemagne. Nous avons écouté pendant cette émission un certain nombre de musiques choisies par Michel Tournier, qui est un grand mélomane, musique très... très connu, mais qui sont les choix de Michel Tournier, il y tenait beaucoup. Vous avez donc reconnu La Mer de Debussy par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dirigé par Emmanuel Krivin, le Boléro de Ravel par l'Orchestre des Concerts Lamoureux sous la direction de Jean-Claude Bernède et la Symphonie Pastorale de Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein.
Le temps des écrivains par Christophe Onodibio, réalisation Isabelle Huel, première diffusion sur France Culture le 6 juin 2015.